Barkhane est bientôt sur le point de laisser place à l'armée malienne à Ménaka. Vu ce qui s'est passé à Gossi avec la fameuse charnière soudainement découverte que Barkhane voulait absolument attribuer à l'armée malienne, il est clair qu'il faudra certainement s'attendre à une manœuvre sournoise de la part de Barkhane à Ménaka également. Le 19 avril dernier, l'état-major des armées françaises avait annoncé que la force Barkhane venait de remettre les clés de la base opérationnelle avancée tactique de Gossi aux forces armées maliennes quelques jours seulement après avoir réalisé un état des lieux du site avec une délégation malienne. Et ce devrait être bientôt le tour de la base de Ménaka. En effet, le 6 juin, le colonel Tassel, l'actuel chef du groupe européen de forces spéciales Takuba, qui relève de Barkhane, a reçu le colonel malien Bagayoko pour l'état des lieux de la base opérationnelle de Ménaka, comme l'a indiqué l'état-major des armées. Et en outre, le transfert de cette base avancée au FAMA ne devrait plus tarder. Mais cette fois-ci, c'est le groupe terroriste de Daesh qui a été renforcé à bloc dans les environs. Des combats opposent des terroristes à l'armée malienne dans le nord du pays, mais qui a gagné la bataille d'Anderrimbukan? Depuis mars, les terroristes de Daesh y affrontent les Touaregs pro-gouvernementaux du mouvement du salut de l'Azawad et le groupe d'autodéfense Imgad et alliés, deux groupes bénéficiant visiblement du soutien de l'armée malienne. L'objectif est de contrôler cette localité stratégique située à 90 km de la ville malienne de Ménaka, à la frontière avec le Niger. Les informations en provenance de la zone sont donc difficiles à recouper pour savoir qui des acteurs s'est imposé ou est actuellement en position de force, comme en témoigne la confusion qui règne après l'offensive lancée en fin de semaine par la coalition pro-Bamako. Ces affrontements se seraient soldés par une victoire de cette coalition, comme l'assurent ses responsables, mais des sources locales, généralement bien informées, contestent et assurent que Daesh est loin d'avoir été battu et qu'il contrôlerait encore la localité. Durant cette période, la division des droits de l'homme de la MINUSMA a noté une dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Gao et de Ménaka en raison d'affrontements armés entre les éléments du MSA, du Gatia et ceux de Daesh ou d'attaquer donc contre les populations civiles dans plusieurs cercles d'Anderrimbukan. Une source proche des groupes d'autodéfense soutient que ces nombreux incidents sécuritaires sont le fruit de la volonté du groupe terroriste de Daesh qui bénéficie du renforcement et de l'aide logistique de Barkhane pour mettre la main sur Ménaka au moment de leur départ. Pour rappel, la France s'est littéralement fait mettre à la porte du Mali car le pays ne pouvait plus voir un seul soldat français donc sur le territoire considéré comme des occupants. De plus, le fait que le Mali s'est tourné vers d'autres partenaires, avec entre autres la Russie, a également changé la donne. L'armée nationale malienne s'est littéralement renforcée et s'est lancée dans la lutte contre le terrorisme tout en apportant des résultats très positifs aux Grandes Dames de Paris. La success story de l'Afrique de l'Ouest française prend donc fin, bien que Paris ait donc réussi à s'incruster dans la région, donc ces dernières années, cela n'a donné aucune raison au peuple ou au gouvernement malien de soutenir les actions françaises. Alors que la France s'impliquait davantage dans la vie des Maliens, la population de tout le pays du nord au sud les détestait et les rejetait. L'avènement de la Russie sur cette scène complexe a permis à Bamako de rompre nettement avec sa dépendance vis-à-vis de la France et de ses alliés occidentaux de l'OTAN. Avant même que la France ne mette officiellement fin à sa présence dans le pays, des armées et des techniciens militaires russes débarquaient déjà à Bamako. Les hélicoptères d'attaque, les systèmes radars mobiles et d'autres technologies militaires russes ont rapidement remplacé les armées françaises. La Russie ne peut pas se permettre de perdre un ami aussi précieux que le Mali en cette période critique de sanctions et l'isolement donc imposé par l'Occident. Cela peut impliquer que le Mali continuera d'être le théâtre d'une guerre froide géopolitique qui pourrait durer des années. Mais le vainqueur de cette guerre reste tout de même le peuple malien. Les États-Unis examinent une loi visant à contrecarrer la présence russe en Afrique, mais également à punir les gouvernements et acteurs africains qui seraient favorables à cette présence. Cette éventuelle démarche met en exergue, une fois de plus, la mentalité purement néocoloniale, si propre à l'établissement états-unien et occidentalo-atlantiste de manière générale. Les États-Unis préparent donc une loi pour sanctionner les amis de Poutine en Afrique, comme l'écrivait récemment l'agence d'information économique l'Africaine, donc l'agence Ecofin. Et comme rappelé, le Sénat américain vient d'entamer l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre les activités malveillantes, selon eux, de la Russie en Afrique. Un texte adopté par la Chambre des représentants le 27 avril dernier et qui définit ces activités comme étant celles qui sapent les objectifs et les intérêts des États-Unis. Rien qu'à lire ces lignes, il est assez facile de comprendre, une fois de plus, une approche ouvertement extraterritoriale états-unienne vis-à-vis d'États souverains, en l'occurrence ici africains, avec d'autant plus une mentalité propre à l'ère unipolaire à laquelle Washington continue de faire référence, faisant le pur négationnisme de la réalité multipolaire qui pourtant s'est bel et bien imposée depuis les dernières années. D'autre part, ce qui est intéressant à noter est que si le dit projet de loi sera finalement appliqué, il ne visera pas seulement la Russie ainsi que d'éventuels citoyens ou entreprises russes travaillant dans les pays africains, mais également nombre de dirigeants d'Afrique eux-mêmes. Et très certainement aussi tous les acteurs panafricanistes qui soutiennent et approuvent le développement de l'interaction russo-africaine. À cet effet, ce qu'il faudrait rappeler aux cow-boys washingtoniens, c'est qu'au-delà du fait que l'Afrique ne leur appartient pas, cette mesure à terme risque de créer d'énormes défis pour les États-Unis eux-mêmes, car l'application d'une telle loi pourra très rapidement non seulement attaquer les chefs d'État et le gouvernement africain, mais aussi les principaux représentants de la société civile, et avec cela, des milliers et des millions de citoyens africains. Des citoyens africains déjà très nombreux d'entre eux hostiles à la politique occidentale vis-à-vis de leur pays et de leur continent, et plus généralement sur la scène internationale. Dans cette situation, deux orientations semblent assez évidentes dans les motivations états-uniennes. Car au-delà de vouloir tenter de limiter la contagion, donc des développements des relations entre la Russie et l'Afrique et la montée en puissance évidente des sentiments pro-russes, Washington veut aussi tout simplement punir les États du continent pour leur non-obéissance dans les événements récents, y compris, comme le pensent les experts du continent, pour punir les nombreux États africains qui ne se sont pas joints à la coalition anti-russe tellement souhaitée et promue par Washington et ses sous-traitants dans le cadre du conflit en Ukraine. Après visiblement l'échec de tenter à surfer efficacement sur la vague panafricaniste hostile à la France-Afrique, confirmant une fois de plus qui est le suzerain et qui le vassal, donc dans la relation Washington-Paris, l'établissement états-unien pense désormais que seules de nouvelles menaces, pressions, sanctions et intimidations peuvent éventuellement l'aider à limiter les dégâts face à une Afrique de plus en plus décomplexée vis-à-vis de l'Occident collectif et désireuse de devenir un bloc puissant dans le cadre du système multipolaire contemporain, avec d'autant plus une perspective fort probable d'un monde multipolaire post-occidental. Encore une fois, les élites occidentales jouent avec le feu, un feu d'ailleurs qui les brûle déjà activement et douloureusement, incapables de se défaire d'une mentalité extrêmement arrogante d'un autre âge et de s'excuser pour les innombrables crimes commis à l'encontre des Africains dans les cas des États-Unis et de leurs sbires, à de la traite esclavagiste jusqu'aux assassinats barbares de grands leaders africains comme Patrice Lumumba ou Muammar Kadhafi. Où et les Occidentaux donc ne font que se signer soi-même la peine de mort. D'un autre côté, pourquoi effectivement empêcher un organisme à l'agonie d'accélérer sa propre chute? Ce qui est sûr, c'est qu'après donc le nombre innombrable de drapeaux français brûlés à divers endroits de l'Afrique, le drapeau états-unien risque rapidement de rattraper ce nombre et pourquoi pas le dépasser.
Selon les médias mainstream au Cameroun, le ministère de la Défense a communiqué mardi la mort de 9 civils la semaine dernière dans la zone du Nord-Ouest, dans le département de la Menkoum. Le 1er juin, dans la soirée, des militaires en patrouille auraient utilisé leurs armes contre des villageois, tuant 4 femmes, 4 hommes et un bébé d'un an et demi. Comment peut-on analyser cette situation et cette information qui veut nuire au Cameroun? Plus de réponses avec Luc Michel, géopoliticien.
Non, ça révèle deux choses. Tout d'abord, le mauvais climat qui règne dans la partie anglophone du Cameroun, le Southern Cameroun. Et deuxièmement, ça révèle le fait que le Cameroun est un état de droit. Les réactions qui sont faites, l'arrestation des soldats, leur licenciement, ça identifie clairement non pas un état livré à l'anarchie comme le prétendent les Occidentaux, mais un état de droit. Il faut rappeler les conditions qui règnent au Cameroun. Le Cameroun, avant 1917, c'est une colonie allemande qu'on appelle le Cameroun avec un K et qui est une colonie unique. En 1917, c'est la guerre de 14-18, les troupes britanniques et françaises s'emparent de la colonie du Cameroun au même moment où d'ailleurs les Britanniques et les Belges s'emparent de la colonie du Tanganyika, qui va devenir le Rwanda Burundi. Au Cameroun, évidemment, il y a la partie sud qui est anglicisée et qui est rattachée au Nigeria, et il y a la partie sud qui, elle, est francisée et est rattachée aux colonies françaises. Pendant toute la colonisation française, le Cameroun sera le vilain petit canard dans les colonies françaises. Les Anglais imposent leur loi britannique, ce qu'on appelle la common law, c'est-à-dire le droit britannique et la langue anglaise, et les Français imposent le droit le code napoléonien, le droit napoléonien et la langue française. Lorsqu'arrivent les indépendances à partir de 1950, les nationalistes camerounais de l'UPC, l'organisation des L'Union des populations du Cameroun veulent réunifier le pays et ils font référence au Cameroun. Ils utilisent d'ailleurs le nom Cameroun dans son orthographe allemand Cameroun et l'utilisation Ouad Cameroun. Mais ce n'est pas eux qui gagnent, c'est un pouvoir qui arrive au pouvoir à Yaoundé, qui est soutenu par Paris. En 1960-62, il y a une réunification. C'est-à-dire que le Southern Cameroun est divisé en deux. Un référendum truqué rattache une partie du Southern Cameroun au Nigeria, d'où il est depuis une province. Et la seconde partie de ce qu'on appelle le Southern Cameroun, qui est peuplée par une ethnie qui est en rébellion perpétuelle, les Bamiléké, évidemment, sont rattachés au Cameroun. Contrairement aux promesses qui sont faites à l'époque, le Cameroun ne s'adopte pas un statut fédéral et il adopte un statut d'État unitaire. À partir de 2015, les Américains font du Cameroun une des cibles principales de ce qu'ils appellent le printemps arabe, le printemps africain, pardon, donc le successeur du printemps arabe. Ils tentent tout d'abord une révolution de couleur et on dit que Paul Biya doit dégager. Le problème, c'est qu'en 2015, il n'y a pas d'élection. Elle est prévue pour 2018 et elle aura lieu en 2018. Une fois que cela échoue, les Américains lancent des sécessions. Il y a tout d'abord l'arrivée des terroristes de Boko Haram qui sont combattus avec l'aide du Tchad. Et deuxièmement, il y a un mouvement sécessionniste anglo-saxon qu'on appelle les Ambazoniens, parce qu'ils veulent unifier et rendre indépendant le pays sous le nom d'Ambazonie, le fleuve Ambas étant le fleuve principal de la région. La sécession de l'Ambazonie, elle endeuille le Cameroun depuis 2017. Elle est combattue par l'armée et la gendarmerie camerounaise, mais qui sont majoritairement des troupes francophones. Les Américains appuient aux États-Unis à une centrale sécessionniste qui s'appelle le SCACU, le Southern Cameroon and National United Front, il a une télévision satellitaire autorisée par les Américains qu'elle les laisse collecter du fond. Et en 2018, avec l'aide de Kamala Harris, celle qui est aujourd'hui la vice-présidente américaine et qui est une proche associée de George Soros, les dirigeants amazoniens sont reçus à la Common House du Canada et au Congrès des États-Unis et présentés comme les représentants légitimes du peuple anglophone camerounais opprimé. C'est dans ce climat que se déroulent évidemment les mouvements du soutien au Cameroun et le SCACUF aux États-Unis, les révoltes sociales, notamment la révolte des avocats et la révolte des enseignants. Voilà donc ce qui se passe. Les événements qui se passent maintenant, c'est un legs de cet héritage qu'on peut appeler pourri, mais ça n'a rien à voir évidemment avec le rapprochement du Cameroun avec la Russie. Mais il est bien victime d'une tentative de renversement de régime, un régime change depuis 2015. Yaoundé, évidemment, après avoir été dans la galaxie française, oui, d'avoir été soutenu par les États-Unis, s'est légitimement tourné non pas seulement vers la Russie militairement, mais vers la Chine économiquement. Ce sont les accords militaires qui viennent d'être conclus avec la Russie. Le Cameroun est définitivement en train d'échapper à l'orbite anglo-saxonne, mais il doit s'attendre à une augmentation des troupes parce que les Américains n'accepteront pas, évidemment, cette dérive vers la Russie.
L'Afrique est la destination des investissements de l'Iran. Le porte-parole du gouvernement a souligné que l'un des objectifs de l'Iran était d'investir sur le continent africain. Ali Bahadori Jahromi, en réponse à la question d'Iran Press sur les mesures prises par le gouvernement pour accroître la présence d'hommes d'affaires et d'investisseurs iraniens en Afrique, a déclaré « De nombreux programmes sont à l'ordre du jour dans le domaine de l'identification des marchés cibles et de la facilitation des infrastructures nécessaires au développement des échanges sur le continent africain. » Bahadori Jahromi a souligné « L'une des priorités du gouvernement est de concentrer la politique étrangère et de donner la priorité à la politique étrangère dans le domaine du commerce et de l'interaction et du développement économique entre les pays. » Et à cet égard, l'Organisation pour le développement du commerce extérieur, qui relève du ministère de l'Industrie et des Mines et le Commerce, est actif et a mené de vastes activités. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que l'un des modèles auxquels l'organisation est confrontée et a pu suivre avec succès cette fois dans plusieurs pays est la création de centres d'affaires dans ces pays, afin de fournir des services aux chers hommes d'affaires iraniens.
Le président du Conseil national du Hadj au Ghana, Cheikh Ibrahim Koudjoué Gouaye, a révélé mardi 7 juin que le gouvernement a offert une subvention de 3,9 millions de dollars pour l'édition 2022 du Hadj. Cette année, le Ghana, à l'instar de plusieurs pays ouest-africains, a été présélectionné parmi les pays qui participeront au pèlerinage à la Mecque avec un quota réduit. Le gouvernement du Ghana soutient le Conseil national du Hadj, une division du Bureau des affaires des pèlerins du ministère des Affaires étrangères du Ghana, pour superviser le pèlerinage à la Mecque avec une somme de 3,9 millions de dollars pour le Hadj 2022. L'information a été révélée mardi 7 juin par Cheikh Ibrahim Koudjoué Gouaye, le président du Conseil, précisant que les premiers vols des fidèles partiront de Tamale dans le nord le 17 juin et d'Accra, la capitale, le 21 juin. Selon le comité de pilotage dédié, le pipeline Tchad-Cameroun a généré un droit de transit de 12,8 milliards de francs CFA au bénéfice du Cameroun entre le 1er janvier au 30 avril 2022, contre 11,59 milliards de francs CFA au cours de la même période en 2021, soit une hausse de 4,23%. Cependant, le droit de transit est en hausse alors que le volume du pétrole brut, enlevé au niveau du terminal Komeribi, est en baisse. Il est passé 16 millions de barils entre janvier et 30 avril 2021 à 15,10 millions de barils sur la même période en 2022, soit un recul de 900 000 barils, soit 5,6%. Le comité de pilotage n'explique pas comment les 15,10 millions de barils ont généré plus de revenus au titre des droits de transit que 16 millions de barils, mais la hausse du prix du pétrole peut être une piste explicative. Les délégués du parti au pouvoir au Nigeria ont commencé à voter dans la nuit de mardi à mercredi pour désigner leur candidat à la présidentielle de 2023. Lors d'une primaire organisée à Abuja, les électeurs du pays le plus peuplé d'Afrique doivent se rendre aux urnes le 25 février 2023, lorsque prendra fin le second mandat du président Mamadou Bouhari, comme le prévoit la Constitution. Une vingtaine de personnalités en lice, lors de cette primaire, espèrent devenir le candidat du Congrès des progressistes pour ce scrutin, dont un des principaux enjeux sera la question de la sécurité, dans ce pays meurtri par des violences criminelles et djihadistes. Le massacre dimanche de 22 personnes dans une église du sud-ouest du pays, région pourtant quasi épargnée par les violences, en est un cruel rappel. Après l'arrivée mardi en fin d'après-midi de quelques 2300 délégués de l'APS, le président Bouhari a fait son entrée à Igel Square, lieu retenu pour la tenue de la primaire. L'Algérie et la Mauritanie ont signé ce mardi à Nouakchott plusieurs mémorandums d'entente dans le domaine de l'énergie et des mines. La signature de ces accords est intervenue au terme de la visite de travail effectuée par le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, en Mauritanie. Il s'agit d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'énergie et des mines, signé par Mohamed Arkab et le ministre mauritanien du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdesalam Ould Mohamed Saleh. Ce mémorandum vise à promouvoir et à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des mines, selon le principe gagnant-gagnant et conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans les deux pays et aux priorités des stratégies des deux parties. L'accord, selon le communiqué final, porte sur la coopération scientifique, technique, technologique, législative, administrative et commerciale dans le domaine des hydrocarbures, de l'énergie et des mines, le renforcement des investissements dans ces domaines dans les deux pays et l'étude des possibilités d'investissement, d'échange d'expériences et d'assistance technique dans le domaine de l'exploration des hydrocarbures.